これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。ヘッベンガ
レゲサワー。
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la lecture, Georges Kless.
Et à la réalisation, Francesco Caonac. Chacun ses goûts, n'est-ce pas? Et pourtant, tous les goûts ne se valent pas. Comment se fait-il que tout un chacun souscrive spontanément à ces deux évidences pourtant contradictoires? Comment affirmer que des goûts et des couleurs on ne discute pas, sans pour autant accepter que toutes les opinions se valent? C'est le problème du jour. Et c'est ce problème redoutable que pose et que se pose David Hume dans un essai sur la norme du goût. Un texte bref, incisif, limpide, paradoxal, intelligent. L'œuvre d'un philosophe adorable, élégant, et dont le scepticisme n'entame ni le bon sens ni la capacité de jugement, dont le désir d'universel n'affecte ni le goût du détail, ni l'art subtil de la délicatesse qui seul, permet de séparer le bon grain de l'ivraie.
La grande variété des goûts autant que des opinions qui prévalent dans le monde est trop évidente pour ne pas tomber sous l'observation de chacun. Les hommes de la connaissance la plus bornée sont capables de remarquer la différence des goûts dans le cercle étroit de leur connaissance, même chez des personnes qui ont été éduquées sous le même gouvernement et ont été imprégnées très tôt des mêmes préjugés. Mais ceux qui sont capables d'élargir leur vue pour contempler les nations distantes et les époques reculées sont encore plus surpris de la grande inconstance et de la grande contrariété des goûts. Nous avons tendance à appeler « barbare » tout ce qui s'éloigne largement de nos propres goûts et de notre propre compréhension. Mais c'est pour voir aussitôt le même reproche retourné contre nous avec la même épithète. La plus grande arrogance, la plus grande suffisance finit par s'étonner en observant une égale assurance de tous les côtés et, finalement, hésite au sein d'un tel conflit de sentiments à se prononcer positivement en sa propre faveur.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
On voit bien dans ce passage de la norme du goût de David Hume que, par exemple, le Lévi-Strauss de Race et Histoire y est déjà un petit peu. Et la phrase archi-célèbre du barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie, on la retrouve déjà, en tout cas, dans ce début des essais esthétiques.
Moi, ce qui me frappe avec cette phrase, c'est que toute personne ayant dit, peu ou prou, que le barbare, c'est celui qui croit à la barbarie, a toujours le sentiment, en un sens, d'être le premier à le dire. Comme si c'était une phrase singulière, courageuse, inédite, audacieuse, etc. etc. Quand Lévi-Strauss écrit dans Race et Histoire « Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie » et qu'il annexe, au fond, tous ceux qui l'ont dit avant lui, puisque désormais on croit que c'est lui qui l'a dit en premier, il passe sous silence implicitement la parole de Hume et avant lui la parole de Montaigne et même avant lui la parole des anciens. Dire le barbare, c'est celui qui croit à la barbarie, c'est tout simplement pratiquer cet exercice de décentrement qui est au principe d'une pensée élargie, c'est-à-dire d'une pensée qui ne s'en tient pas à soi et qui ne se prend pas pour une norme universelle. Et effectivement, c'est le premier constat de Hume dans l'essai sur la norme du goût. La grande variété de goûts et d'opinions qui prévaut dans le monde est trop évidente pour n'être pas tombée sous l'observation de tous. Le mot important ici, évidemment, c'est l'observation. C'est que c'est l'observation qui nous renseigne sur la variété de goûts. Au fond, pour comprendre qu'on n'est pas le centre du monde, il suffit d'avoir les yeux ouverts sur le train du monde, de garder les yeux ouverts sur le train du monde. Et du coup, même quand on a le savoir le plus borné, eh bien, on est accessible, on est perméable à d'autres discours que le nôtre. Alors, Lévi-Strauss, que dit Lévi-Strauss? Il dit...
L'attitude la plus ancienne, et qui repose sans doute sur des fondements psychologiques solides, puisqu'elle tend à réapparaître chez chacun de nous quand nous sommes placés dans une situation inattendue, consiste à répudier purement et simplement les formes culturelles, morales, religieuses, sociales, esthétiques, qui sont les plus éloignées de celles auxquelles nous nous identifions. Habitude de sauvage, cela n'est pas de chez nous, on ne devrait pas permettre cela, etc. Autant de réactions grossières qui traduisent ce même frisson, cette même répulsion en présence de manières de vivre, de croire ou de penser qui nous sont étrangères. Ainsi, l'Antiquité confondait-elle tout ce qui ne participait pas de la culture grecque, puis gréco-romaine, sous le même nom de barbare. La civilisation occidentale a ensuite utilisé le terme de sauvage dans le même sens. Or, derrière ces épithètes, se dissimule un même jugement. Il est probable que le mot « barbare » se réfère étymologiquement à la confusion et à l'inarticulation du chant des oiseaux, opposé à la valeur signifiante du langage humain. Et « sauvage », qui veut dire « de la forêt », évoque aussi un genre de vie animale par opposition à la culture humaine. Cette attitude de pensée, au nom de laquelle on rejette les sauvages ou tout ce qu'on choisit de considérer comme tel hors de l'humanité, est justement l'attitude la plus marquante et la plus instinctive de ces sauvages mêmes. L'humanité cesse aux frontières de la tribu, du groupe linguistique, parfois même du village, à tel point qu'un grand nombre de populations dites primitives se désignent elles-mêmes d'un nom qui signifie « les hommes », ou parfois, dirons-nous avec plus de discrétion, « les bons », »,« les excellents », »,« les complets », impliquant ainsi que les autres tribus, groupes ou villages ne participent pas des vertus ou même de la nature humaine, mais qu'ils sont tout au plus composés de mauvais, de méchants, de singes de terre ou d'œufs de poux. On va souvent jusqu'à priver l'étranger de ce dernier degré de réalité en en faisant un fantôme ou une apparition. Ainsi se réalisent de curieuses situations où deux interlocuteurs se donnent cruellement la réplique. Dans les grandes Antilles, quelques années après la découverte de l'Amérique, pendant que les Espagnols envoyaient des commissions d'enquête pour rechercher si les indigènes avaient ou non une âme, ces derniers s'employaient à immerger des blancs prisonniers afin de vérifier par une surveillance prolongée si leurs cadavres étaient ou non sujets à la putréfaction. En refusant l'humanité à ceux qui apparaissent comme les plus sauvages ou barbares de ses représentants, on ne fait que leur emprunter une de leurs attitudes typiques. Le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie.
Barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. Souvenez-vous, Paola, que c'était déjà le problème de Montesquieu dans les Lettres persanes. Ils sont tous du côté de la critique d'un sentiment très fort en tout homme, qui est, parce qu'il est le centre de sa vie, l'illusion d'être le centre du monde. À la façon dont on peut dire comment qui sont ces gens qui ne parlent pas français comme tout le monde, si vous voulez. Ce décentrement, l'exercice de décentrement est un exercice extrêmement difficile, d'altération. Cette façon qu'on a de regarder le monde avec d'autres yeux que les siens est un exercice extrêmement difficile. Et c'est un exercice que certains se flattent de pratiquer sans le faire. Par exemple, les gens qui disent « soyons attentifs à d'autres discours que le nôtre, soyons attentifs à d'autres voix que les nôtres », ces gens-là le disent au nom de l'idée flatteuse qu'ils se font de leur propre tolérance. C'est très compliqué, l'altération. Entendre un autre discours que le sien, c'est très compliqué, de façon générale. Écouter un autre discours que le sien, c'est très compliqué. Mais chez Hume, c'est fondamental.
Oui, mais ce qu'on peut remarquer, par contre, c'est que Hume, à la différence de Lévi-Strauss ou d'autres, ou de Montesquieu ou de Montaigne, n'écrit pas un essai sur la tolérance, mais c'est un essai d'esthétique.
Oui, mais en fait, c'est un essai sur la tolérance et c'est aussi un essai politique. Parce que, quel est le propos de Hume dans cet essai? Le propos de Hume est de montrer que toute connaissance s'appuie sur l'expérience et que les expériences sont diverses, sont variées. Et que, par conséquent, si l'on se donne pour postulat que toute connaissance repose sur l'expérience et que l'expérience est diverse, nous ne pouvons pas, à aucun moment, établir une norme du goût. Quelque chose qui transcende l'expérience, au fond, pour s'imposer. Et dans le même temps, Hume est celui qui dit « ouais, mais on peut quand même pas dire n'importe quoi ». On peut quand même pas mettre sur le même plan, Gérard de Villiers et Stendhal, si vous voulez. On peut pas. C'est celui qui dit à la fois des goûts et des couleurs, on ne discute pas, et en même temps, oui, mais on peut pas dire n'importe quoi. Et il tient ces deux dimensions de l'être. Et la façon qu'il a de résoudre ce qui semble au départ une contradiction et fait de ce texte un texte politique, c'est-à-dire un texte sur les conditions du dialogue, sur les conditions d'un désaccord entre les gens. Pour qu'un désaccord soit possible entre les gens, il faut que les gens ne soient pas d'accord, mais qu'ils soient en revanche d'accord pour ne pas s'entendre. Et être d'accord pour ne pas s'entendre, c'est dans cette zone-là, c'est dans cette zone grise, confuse, que Hume permet d'éclaircir, que se situe son propos, c'est-à-dire ce qu'il dit de la norme du goût à l'intérieur de son scepticisme, c'est la construction de cet endroit où on est d'accord pour ne pas être d'accord. Ce qui fait qu'au fond, ce texte est un texte politique, mais on y viendra plus tard, hein. Je veux dire, on a le temps d'en parler. Mais c'est important de remarquer, si vous voulez, cette apparence de disparité de laquelle il part, qu'il se donne comme point de départ, et sur laquelle il reviendra ensuite, qu'il essaiera de contredire ensuite. La variété des goûts, la diversité, la disparité des goûts s'augmente des divergences entre les hommes dont le discours général est pourtant le même. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est que, par exemple, tout le monde s'accorde pour dénoncer la mauvaise littérature. Bon. Ou la mauvaise peinture. Mais personne ne s'entend pour dire ce qu'est effectivement la mauvaise littérature ou la mauvaise peinture. Enfin, si vous voulez, c'est la différence qu'il fait entre l'esthétique et la science. L'esthétique, ce sont des mêmes mots pour qualifier des opinions divergentes, et la science, en général, sont des discours antagonistes qui s'aperçoivent in fine qu'ils ne sont que des querelles de mots. Et puis, en termes de morale, tout le monde s'accorde à applaudir la vertu et à dénoncer le vice. Oui, mais personne ne s'entend sur ce qu'est véritablement la vertu et le vice. Homère, par exemple, célèbre la vertu et condamne le vice, mais il salue, rappelle Hume, la férocité d'Achille comme la fourberie d'Ulysse. Le Coran, œuvre sauvage et absurde, dit David Hume, partage avec nos textes, dit-il, le fait d'aimer la vertu et de condamner le vice. Donc il y a, si vous voulez, dans la démarche de Hume, l'ambition de repérer ce qui dépasse la diversité des goûts, mais de se donner, pour point de départ, une irréductible diversité. Il ne se facilite pas la tâche, si vous voulez. Et ça n'est ni plus ni moins que la possibilité pour les hommes de faire société qui est en jeu. C'est-à-dire de s'entendre pour ne pas s'entendre. C'est ça l'enjeu du texte. Traquer l'universel sous la diversité qui le dissimule et la diversité sous l'universalité des termes, c'est cette double ambition. Eh bien, cette ambition chère à Hume est une ambition au fond politique.
Et il termine en disant qu'une explication des termes achève ordinaire la controverse et les adversaires sont surpris de s'apercevoir qu'ils étaient en train de se quereller tandis qu'au fond, ils étaient d'accord dans leur jugement.
C'était ce que je vous disais de la science. Voilà. Des discours antagonistes s'aperçoivent qu'in fine, ils disent la même chose et qu'au fond, ça n'était qu'un problème de vocabulaire. C'est-à-dire que soit les mots recouvrent de leur généralité la disparité des opinions qu'ils expriment, soit des mots antagonistes dissimulent l'accord profond entre deux personnes qui croient être en désaccord. Dans un cas comme dans l'autre, c'est-à-dire en esthétique ou en science, du point de vue de Hume, dans un cas comme dans l'autre, il y a là un désaccord qui, pour beaucoup, pour une bonne part, relève de l'imaginaire. Il faut travailler dessus pour en dissiper les zones d'obscurité, pour enfin établir les conditions de possibilité d'un dialogue de bonne foi entre les hommes.
Mais cela, ça se complique au moment où, où Hume commence à parler d'esthétique et d'art, parce que ça devient la différence entre les opinions et les sentiments.
Tout à fait, ça c'est très important. Rappelons juste avant cela que pour Hume, il est naturel de rechercher une norme du goût, c'est-à-dire une règle par laquelle les sentiments divers des hommes puissent être réconciliés, ou du moins une proposition de décision qui confirme un sentiment et en condamne un autre. Il est naturel de chercher ça. Oui, mais si vous êtes sceptique, comment pouvez-vous chercher une chose pareille, monsieur ? Où allez-vous chercher une chose pareille à l'intérieur même de votre scepticisme ? Souvenez-vous, chez Montaigne, le chapitre sur les cannibales, qui est vraiment avant Hume et avant Lévi-Strauss, Montaigne a inventé la tolérance. Sur les cannibales, il dit, et c'est le tour de force de Montaigne, que les cannibales, les cannibales ne sont pas plus mauvais que nous. Au contraire, ils sont meilleurs, puisque eux, ils font rôtir quelqu'un pour le manger, et non parce qu'il est en désaccord sur un point de vue religieux. Donc à tout prendre, une société qui brûle des hommes pour les manger, et qui les mange une fois qu'ils sont morts, est préférable à une société qui brûle des hommes vivants, parce qu'ils n'ont pas le même avis sur la Bible. Et Montaigne démontrait à l'occasion de cela qu'il n'était pas nécessaire d'avoir des valeurs absolues pour pouvoir formuler un jugement. Et ça c'est fondamental, c'est une décision philologique fondamentale. Pour Hume c'est pareil, il n'y a pas besoin de valeurs absolues, il n'y a pas besoin de savoir ce qu'est le beau pour dire ce qui est laid. Il n'y a pas besoin de valeurs absolues pour formuler un jugement. Et c'est dans cette zone-là, cette zone d'incertitude où on ne se donne la facilité d'aucune vérité, c'est-à-dire d'aucun mensonge en vérité. On ne se donne aucune facilité qu'il s'agit d'élaborer, paradoxalement, sur la base d'un scepticisme, du constat d'une diversité, une norme qui la transcende. Et c'est ce qu'il parvient à faire. Mais vous avez raison, la première objection qu'il formule est très forte, c'est que les sentiments ne renvoient qu'à eux-mêmes.
Parmi 1000 opinions différentes que les hommes différents peuvent nourrir sur le même sujet, Il n'y en a qu'une et une seule qui soit juste et vraie. Et la seule difficulté est de la déterminer et de l'établir. Au contraire, 1000 sentiments différents éveillés par le même objet sont tous justes parce qu'aucun sentiment ne représente ce qui est réellement dans l'objet. Il marque seulement une certaine conformité, une certaine relation entre l'objet et les organes ou facultés de l'esprit. Et si cette conformité n'existait pas réellement, le sentiment ne pourrait jamais exister. La beauté n'est pas une qualité qui se trouve dans les choses elles-mêmes. Elle n'existe que dans l'esprit qui les contemple. Et chaque esprit perçoit une beauté différente. Il se peut même qu'une personne perçoive de la laideur là où une autre est sensible à la beauté. Chaque individu doit accepter son propre sentiment sans prétendre régler ceux d'autrui. La recherche de la beauté réelle ou la laideur réelle est une recherche aussi vaine que celle qui prétendrait déterminer la douceur réelle ou l'amertume réelle. Selon la disposition des organes, le même objet peut être en même temps doux et amer. Et le proverbe a déclaré à juste titre qu'il était vain de disputer des goûts. Il est très naturel et même tout à fait nécessaire d'étendre cet axiome au goût mental aussi bien qu'au goût physique. Et c'est ainsi que le sens commun, qui est si souvent en désaccord avec la philosophie, surtout avec la philosophie sceptique, se trouve, au moins dans un cas, d'accord avec elle pour prononcer le même jugement.
La contradiction dont vous parliez, Raphaël, elle est là et elle semble difficile à surmonter parce qu'à partir de ce constat-là, comment trouver naturel, comme vous disiez, de chercher à établir une norme ? Parce que lui, ce qu'il trouve naturel, là, en tout cas dans ce passage, c'est d'étendre cet axiome au goût mental et physique, etc.
Je vous ai dit qu'au départ, Hume se donnait deux lieux communs comme point de départ. Ça, c'est de bonnes méthodes en philosophie. C'est-à-dire, il se donne comme point de départ deux trucs que les gens pourrait avancer comme deux évidences, mais qui sont contradictoires. La première étant « chacun ses goûts », la deuxième étant « on va quand même pas dire que ces deux choses-là se valent ». Vous voyez, ces deux évidences-là, qui sont deux évidences, les deux évidences les plus triviales, sont un excellent point de départ, non pas par la dose de vérité qu'elles contiennent, mais par l'ambition, par le sentiment qu'elles donnent d'être l'une et l'autre véridiques, alors qu'elles sont ouvertement contradictoires. C'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça qu'il se donne ces deux points de départ. Alors on examine d'abord le premier. Le premier, c'est chacun ses goûts. Chacun ses goûts, ça veut dire que, eh bien, la différence entre une opinion et un sentiment, c'est que l'opinion n'a pas à se conformer à l'objet dont elle est l'opinion, si vous voulez. Il ne s'agit pas de dire, ceci est un micro, nous sommes en train de parler à un micro, ceci est un micro, or c'est effectivement un micro, donc mon discours est un discours de vérité, il y a conformité entre ma parole et l'objet. Bon, définition classique, banale, plate de la vérité. Non, c'est ceci me semble être un micro. Et là, ça pourrait être une asperge, ça pourrait être une tomate, ça pourrait être un poireau, peu importe. Le fait que ça me semble être un micro, et qu'en cela ne renvoie qu'à l'impression que j'en retire, et pas à l'objet lui-même, ce sentiment-là ne peut pas être faux. Si je dis d'un poireau « c'est un micro », je dis une bêtise. Si je dis d'un poireau qu'il me rappelle le micro de la radio, alors là, je ne dis plus de bêtises. Parce que je n'évoque que moi, et je ne parle que de mon sentiment. Si je dis de Jérôme Cahuzac qu'il est malhonnête, je dis une vérité. Bon, il est menteur et malhonnête. Bien, il a menti et il s'est conduit de façon malhonnête. C'est une vérité. Si, avant toute preuve, avant toute chose, etc., je dis « je ne le sens pas, celui-là, j'ai l'impression qu'il est malhonnête », d'une certaine manière, que sa malhonnêteté soit avérée ou non, je ne peux pas avoir tort. Ça n'est que mon sentiment. Mes sentiments sont toujours justes. Nos sentiments sont toujours justes, non pas parce qu'ils renvoient à une réalité extérieure, mais parce qu'ils ne renvoient qu'à eux-mêmes. C'est la différence qu'il y a entre avoir faim et croire qu'on a faim. Il n'y en a pas. C'est la différence entre aimer et croire qu'on aime. Il n'y en a pas non plus, si vous voulez. Un sentiment se suffit à lui-même. De là, la diversité des goûts. La différence entre le sentiment et l'opinion. 1000 sentiments différents éveillés par le même objet sont tous justes, parce qu'aucun sentiment ne représente ce qui est réellement dans l'objet. Donc on ne peut pas donner tort à celui qui perçoit une beauté différente, à celui qui est plus ou moins sensible à telle ou telle chose. C'est, si vous voulez, pour illustrer ça, ce sont toutes les discussions que les artistes peuvent avoir entre eux sur les artistes ou les spectateurs, par exemple, après un spectacle, peuvent avoir entre eux, où au lieu de dire « j'aime » ou « je n'aime pas », disent « c'était nul » ou « c'était magnifique ». C'est-à-dire, quand quelqu'un, au lieu de dire « je n'aime pas », dit « c'est nul », il bascule du sentiment à l'opinion, c'est-à-dire qu'il transforme son sentiment en opinion. Il érige son propre sentiment en norme et il le fait indûment, puisque un autre pourra lui dire « mais pas du tout, c'est magnifique ». Et on obtient là fatalement un dialogue de sourds, puisque dans les deux cas, ce sont deux sentiments totalement intimes qui sont érigés indûment en opinion sur la chose. Donc il ne peut pas y avoir de dialogue possible entre des individus qui fonctionnent de cette façon-là. En revanche, deux individus qui disent « j'ai pas aimé » et « j'ai aimé » sont deux individus qui ménagent la possibilité d'un dialogue entre eux, puisque leurs émotions, ils ne les prennent jamais pour une information sur l'objet lui-même, mais une information sur leur rapport à l'objet. Et dans ces conditions, la discussion devient possible. La discussion n'est possible que si on dit « je n'aime pas » ou « j'aime », mais non, il est mal aimable ou il est aimable, si vous voulez. Si on tient pour aimable celui qu'on aime, alors on bascule du sentiment à l'opinion. Et c'est là qu'on ménage la possibilité d'un désaccord frontal entre les individus. Mais si on s'en tient à son propre sentiment, d'une certaine façon, il n'y a plus de problème. Chaque individu doit accepter son propre sentiment, sans prétendre régler ceux d'autrui. Disparité des sentiments. Disparité absolue des sentiments, des goûts et des couleurs, en un sens, nous ne discutons pas. C'est le premier point. C'est d'ailleurs une façon pour Hume de reprendre les arguments de Platon dans le Thé et Tête. Dans le Thé et Tête, Socrate explique qu'on ne peut pas fonder la science sur la sensation. Pourquoi ? Parce que la science, c'est une science qui repose sur la sensation. Si vous êtes enrhumé, si vous êtes frileuse et que le vent souffle, le vent vous semblera froid. Si je ne suis pas frileux, le vent me semblera tiède. Est-ce à dire que le vent est tiède et froid à la fois ? Notre sensation ne peut pas constituer de science puisqu'elle ne donne aucun accès à une généralité consistante qui nous permettrait de produire une théorie.
Mais donc comment, à partir de cette diversité des sentiments, on bascule vers... Enfin, la norme, qu'est-ce qu'elle concerne ? Elle concerne les sentiments ou elle concerne...
Eh bien, il va vers un second axiome du sens commun, parce que le danger, c'est de dire, voilà, chacun éprouve ce qu'il éprouve, au fond. Puis il n'y a rien de plus à en dire. Chacun éprouve ce qu'il éprouve. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est l'atomisation de l'humanité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de communication dans ces conditions. Il n'y a plus de communication. Comment penser à un mode de communication qui ne soit pas dogmatique, au fond ? C'est-à-dire qui ne soit pas un sentiment qui s'impose aux autres. Comment penser ça ? À grande échelle, c'est comment penser l'universalité d'une musique qui ne soit pas l'impérialisme du pays d'où cette musique est issue, par exemple. C'est ça, hein, l'enjeu, hein, c'est ça l'enjeu du propos de Hume. Comment penser l'universalité d'une musique qui ne soit pas cet enjeu-là ? Et c'est la raison pour laquelle il en vient au second axiome du sens commun dans son texte qui dit
« Bien que cet axiome, devenu proverbe, semble avoir gagné la sanction du sens commun, il est certain qu'il existe une espèce de sens commun qui s'oppose à lui, ou, du moins, qui sert à le modifier et à le restreindre. Si quelqu'un affirmait une égalité de génie entre Ogilby et Milton, ou entre Bunyan et Addison, on penserait qu'il défend la même extravagance que s'il soutenait qu'une taupinière est aussi haute que Tenerife, ou qu'une mare est aussi étendue que l'océan. Bien que l'on puisse trouver des personnes qui donnent la préférence aux premiers auteurs, personne ne prête attention à un tel goût, et nous déclarons sans hésitation que le sentiment de ces prétendus critiques est absurde et ridicule. Le principe de l'égalité naturelle des goûts est alors totalement oublié, et tandis que nous l'admettons dans certaines occasions, où les objets semblent presque égaux, il semble un paradoxe extravagant, ou plutôt une grossière absurdité, quand des objets aussi disproportionnés sont comparés.
J'ai l'impression que c'est comme si l'intuition ici défie le relativisme.
Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites ? Parce que ça, c'est génial. L'intuition défie le relativisme.
C'est l'idée d'une valeur qui s'impose à nous et qui va au-delà d'une anarchie des sentiments.
Mais oui, parce qu'il y a une panique. Comment considérer qu'on ne peut pas dire n'importe quoi ? Que tout ne se vaut pas sans prendre son goût pour une norme. C'est ça l'enjeu de Hume. Et c'est pour ça que l'idée d'intuition qui défie le relativisme est très forte. En général, on oppose l'universel au relativisme. On oppose l'universalité de quelque chose à la relativité d'une sensation, l'universalité d'un concept, d'un théorème, d'une théorie, à la relativité d'une sensation. Voilà, l'universalité viendrait la recouvrir. Et on fait toujours à l'universel le reproche de l'abstraction. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est comme parler de genre humain. Il n'y a pas le genre humain, vous n'avez pas croisé le genre humain dans la rue, vous croisez des Français, des Italiens, des Suisses, etc. Mais vous ne croisez pas le genre humain.
L'idée du rouge.
Oui, l'idée du rouge, même chose. Donc, on reproche toujours à l'universel son excessive abstraction. Et on reproche à la singularité d'une émotion, au contraire, son excessive incarnation, c'est-à-dire le fait qu'elle ne sorte pas d'elle-même. Et la solution, c'est l'intuition. Et c'est ce que Hume appellera la délicatesse, on en parlera tout à l'heure. C'est l'idée que il existe un certain rapport à ses sensations, à ses propres sensations, qui dépasse le cadre de ses sensations, qui nous permet, via nos sensations, de rejoindre le monde. C'est-à-dire qui nous permet de ne pas nous enfermer dans nos sensations, qui nous permet de communiquer sur la base de ce qui semble incommunicable par définition, qui est notre sensation singulière. Et c'est là que Hume intervient de façon brillante, extraordinaire, parce qu'il sort du relativisme, non pas en faisant valoir l'universel, mais en faisant valoir un rapport intuitif aux choses. Pour le dire très simplement, restons sur le paradoxe de départ. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Irréductible diversité des goûts. Et pourtant, on ne peut pas dire n'importe quoi. Pour le dire autrement, chacun ses goûts, mais Gérard de Villiers, le pauvre, n'est pas Stendhal ni Marcel Proust. Jeff Koons n'est pas Léonard de Vinci, si vous voulez. Max Pekka n'est pas Woody Allen. Barry Lyndon vaut mieux que le gendarme à Saint-Tropez.
C'est
la musique qui vous trouve, c'est ça. Allez-y, allez-y.
Vous parliez de comparaison, et évidemment, je ne vais pas faire une comparaison. Je ne veux pas dire que Hume n'est pas Kant ou Kant n'est pas Hume. Mais enfin, pourquoi avoir choisi Hume quand, évidemment, l'idée de relativité du goût, etc., évoquerait plutôt Kant, en tout cas pour n'importe quel cagneux ou...
Oui, cagneux ou cagneuse. Voilà. Cagneux ou cagneuse pour qui le concours s'approche.
Exactement.
Oui, parce que Kant, la critique de la faculté de juger, qui est un texte dont on parlera plus tard, met en évidence ce paradoxe. Et beau, dit Kant, ce qui plaît universellement, sans concept. Donc c'est d'une façon non dogmatique, non théorique, que l'universel ou l'universalité d'une sensation s'impose à nous, ou la valeur universellement communicable, c'est surtout ça chez Kant, de cette sensation s'impose à nous. En fait, Hume et Kant sont dans deux univers tout à fait différents. Ils travaillent l'un et l'autre sur les conditions d'un dialogue, sur les conditions de possibilité de l'érection d'une norme, par-delà la diversité des goûts. Mais Hume est beaucoup plus phénoménologue, en fait, que Kant. Il est beaucoup plus attaché à la singularité de l'objet même qu'il faut travailler. C'est à partir de l'objet. Hume croit à la possibilité de toucher le monde. De toucher le monde du doigt, c'est le paradoxe de son scepticisme. C'est un scepticisme qui ménage la possibilité d'une rencontre véritable avec ce qu'est le monde. Alors que chez Kant, il n'y a rien de tout cela. Le monde est toujours séparé de nous par toute l'épaisseur de son essence, toute l'épaisseur de son, tout le mystère de ce qu'il porte en lui d'inconnaissable. Paradoxalement, c'est une dimension qui disparaît un peu chez Hume.
Mais restons chez Hume. Hein. Un, chacun son opinion. Deux, toutes les œuvres ne sont quand même pas équivalentes.
Voilà. Chacun son opinion, oui, mais Homer, qu'est-ce que vous voulez, c'est mieux que Christine Angot. Voilà. Chacun son opinion, mais il y a des valeurs absolues. Et c'est ça le grand paradoxe. C'est ça le grand paradoxe.
A priori, ces deux éléments ne sont pas tenables. Ces deux éléments ne tiennent pas, si vous voulez. Chacun ses goûts, mais pourtant le journal de Mickey ne vaut pas le journal de Kafka. Voilà, c'est comme ça. Comment affirmer ces deux choses-là ensemble, simultanément ? Le propos de Hume, tout le propos de Hume, c'est d'interroger l'assemblage baroque et néanmoins totalement répandu de ces deux évidences, ce qu'on appelle un scepticisme mitigé, un scepticisme tempéré, et qu'il applique à la question de l'œuvre d'art. C'est-à-dire, un, il n'y a pas de théorie de l'œuvre d'art, aucune des règles de la composition n'est fixée par des raisonnements a priori. Deux, il y a des règles. Malgré tout, les œuvres d'art obéissent à des règles. Trois, ces règles viennent de l'expérience.
Oui, l'expérience qui occupe une part très importante. Enfin, vous avez parlé au début de méthode. Il y a vraiment une méthodologie qu'explique Hume dans ce traité.
On ne peut pas sortir du régime de l'expérience. En fait, on ne peut pas. C'est impossible. Parce que même quand vous formulez une théorie qui transcende, en apparence, dont le contenu donne le sentiment de transcender le régime de l'expérience, ce qui compte, c'est le rapport à la théorie que vous formulez. Et l'expérience qui vous invite à formuler cette théorie ou à adhérer à cette théorie. Et nos idées sont toujours, chez Hume, dans la vie, précédées par des impressions. C'est les impressions qui donnent le jour à nos idées. C'est la raison pour laquelle, pour Hume, nous ne rêvons jamais de quelque chose que nous n'avons jamais vu. C'est impossible. On ne peut pas rêver d'un truc qu'on ne connaît pas. On peut rêver d'une licorne, mais si on rêve d'une licorne, c'est qu'on connaît le cheval et qu'on connaît la corne. On peut rêver d'une montagne d'or, mais c'est parce qu'on connaît la montagne et qu'on connaît l'or. La montagne d'or n'existe pas, la licorne n'existe pas non plus, mais l'assemblage des deux est, lui, parfaitement compréhensible et réductible à ce que nous avons perçu. On ne sort pas du régime de l'expérience. C'est un empiriste. On ne sort pas du régime de l'expérience, mais on peut, par l'expérience, rejoindre, sinon l'universalité de quelque chose, en tout cas la réalité de quelque chose. C'est-à-dire que c'est un vrai mystère, ça. Considérer que nos sentiments ne renvoient qu'à eux-mêmes et jamais à un objet en dehors d'eux, c'est un truc très bizarre. C'est une évidence et en même temps, comment ne pas tenir pour aimable la personne qu'on aime ? Voyez ? Est-ce que c'est se prendre pour le centre du monde que de faire ça ? Comment passer de l'intérieur de soi, de l'intériorité d'un sentiment, à la réalité de l'objet qui nous inspire ce sentiment ? Comment on fait ça ? Comment on dépasse ce simple régime de l'expérience singulière ? C'est vraiment le propos de Hume, c'est de dépasser l'ordre du sentiment. C'est de montrer comment, au-delà du sentiment, il y a une réalité à laquelle ce sentiment renvoie.
Mais ces sentiments, enfin, j'ai eu l'impression que, question de vocabulaire, hein, mais j'ai eu l'impression que parfois ces sentiments devenaient chez Hume préjugés. Parce que, vous parliez de comment sortir du régime de nos sentiments, et pour juger par exemple une œuvre ou quelqu'un, et il dit qu'il faut se défaire de nos préjugés. Mais ces préjugés ne sont-ils pas précisément nos sentiments en fait ?
Si, bien sûr. On en vient ici à la question de la délicatesse. Avant d'examiner la question de la délicatesse, parce que c'est fondamental, se défaire de nos préjugés pour accéder à un sentiment qui soit lui-même épuré. C'est-à-dire que on doit à la fois, nous ne pouvons pas sortir de nos sentiments, et dans le même temps, il y a des sentiments plus ou moins légitimes. En gros, on peut tous goûter du vin, mais c'est pas le même vin qu'on boit selon qu'on a le palais délié ou non, selon qu'on a les papilles aiguisées ou non. Ça n'est pas le même vin qu'on boit en un sens. C'est péché de goûter un grand vin quand on est enrhumé. Il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça parce qu'on passe à côté. C'est bien qu'il y a une réalité à côté de laquelle on peut ne pas passer si l'on vit sans préjugés, c'est-à-dire sans avoir les papilles ou les narines obstruées. Tenez, vous vous souvenez du début d'Amadeus ?
Oui, le film de Milos Forman.
Oui. Vous souvenez comment ça commence ?
C'est Salieri qui joue du Mozart.
Écoutez ça.
Seul dans une chambre.
Connaissez-vous cela ? À l'époque, je reçus une folle ovation. Eh bien,
je regrette, cela ne me dit pas grand-chose.
Vous n'avez retenu aucune de mes compositions. J'étais le plus célèbre compositeur d'Europe. J'ai composé 40 opéras tout seul. Et ça, vous connaissez.
Oui, je connais. Ah, c'est très charmant. Je ne me serais jamais douté que c'est vous qui l'aviez écrit.
Non, je ne l'ai pas écrit. Ça, c'est de Mozart.
Le même Homère, qui plaisait à Athènes et à Rome il y a 2000 ans, est encore admiré à Paris et à Londres. Tous les changements de climat, de gouvernement, de religion ou de langue n'ont pu ternir sa gloire. L'autorité et les préjugés peuvent donner une vogue temporaire à un mauvais poète ou à un mauvais orateur, mais sa réputation ne sera jamais durable et universelle. Quand ses compositions sont examinées par la postérité ou par des étrangers, l'enchantement se dissipe et ses défauts apparaissent sous leur vrai jour. Au contraire, pour un réel génie, plus ses œuvres durent, plus largement elles se répandent et plus sincère est l'admiration qu'elles rencontrent. L'envie et la jalousie prennent trop de place dans un cercle étroit et même une relation de familiarité avec la personne du génie peut diminuer les éloges que méritent ses compositions. Mais quand ces obstacles sont ôtés, les beautés, qui naturellement sont capables d'éveiller des sentiments agréables, déploient immédiatement leur énergie et, tant que le monde dure, elles conservent leur autorité sur l'esprit des hommes.
Mais la question que pose ce texte de Hume, enfin, nous met face au problème de savoir si est-ce qu'on peut reconnaître un génie à notre époque alors, ou est-ce que seul le temps est le vrai juge de la valeur d'une œuvre ?
Gardez en tête l'extrait qu'on a entendu d'Amadeus avant ce texte, Paola, et que nos auditeurs l'aient en tête également. On a en tête, donc on a un moment, c'est le début d'Amadeus, où Salieri joue une de ses compositions dont il était si fier, ça ne dit rien à son interlocuteur. Et puis ensuite, il joue 4 notes de Mozart, hein, 5 notes de Mozart, 10 notes de Mozart. Et l'autre dit « Oh, yes, it's lovely ».
Et phrase très cruelle, « Je n'aurais jamais cru que c'était vous qui l'avez écrit ».
Oui, le plus
c'est
cruel...
C'est naïf, mais c'est...
Oui,
peu...
c'est candide. Le plus cruel n'est pas ça, parce qu'il le prenait pour un fou, en fait. Bon, mais le plus... Pour un extravagant ou un type un peu perdu. Le plus cruel n'est pas ça. Le plus cruel est de dire... Ah, mais ça, je m'en souviens, oui. Ça, je m'en souviens. C'est-à-dire, au fond, il n'est pas besoin de flonflon et de 40 opéras. Et regardez le texte.
L'autorité et les préjugés peuvent donner une vogue temporaire à un mauvais poète ou à un mauvais orateur.
Salieri.
Mais sa réputation ne sera jamais durable et universelle. Quand ses compositions sont examinées par la postérité ou par des étrangers, l'enchantement se dissipe et ses défauts apparaissent sous leur vrai jour. Salieri. Voilà. Condition de Salieri. Au contraire, pour un réel génie, Mozart, plus ses œuvres durent, plus largement elles se répandent et plus sincère est l'admiration qu'elles rencontrent.
Et c'est comme ça. Le fait qu'un homme qui n'est pas mélomane, qui n'a jamais entendu comme l'interlocuteur de Salieri, qui n'aime pas particulièrement la musique, qui ne connaît pas la musique, puisqu'il croit que c'est du Salieri, il confond Salieri et Mozart, si vous voulez, donc il ne connaît rien. Que cet homme-là, dont d'une certaine manière le goût n'est pas opacifié par ce qu'il faut en penser, par ce qu'il faut penser des musiques qu'on entend, donc il n'a aucun préjugé, il n'a que son oreille pour lui. Eh bien cet homme-là, comme un enfant, cet homme-là repère le génie. Cet homme-là est sensible et il n'a besoin pour repérer le génie que de se référer à son propre cœur, à sa propre intuition, à sa propre sensibilité, à la manière, vous savez, dont un violoniste de génie, s'était mis dans le métro de Chicago et avait joué des morceaux toute la journée. Et comme il jouait dans le métro, les parents passaient, ne faisaient pas attention au type, il n'y avait que les enfants qui s'arrêtaient. Et à la fin de la journée, il y a eu quelqu'un qui prenait des notes à côté, a observé le comportement, a repéré que 45 enfants avaient demandé à leurs parents de s'arrêter alors que les parents étaient pressés de prendre le métro. Parce que les enfants entendaient quelque chose d'extraordinaire, parce que leur perception n'était pas recouverte par les préjugés de la vie quotidienne, de ce qu'il convient de penser d'un musicien qui traîne dans le métro, etc. etc.
Mais alors, je vous interromps, mais alors ça contrarie certaines pensées d'Hume, c'est-à-dire que le goût ne s'éduque pas forcément. Si les enfants sont capables de reconnaître un violoniste de génie.
Mais bien sûr que le goût s'éduque. Vous croyez que la candeur est au début ? L'enfance, elle est au bout du chemin, Paola. L'enfance, c'est pas l'enfance. Alors, ça marche avec les enfants dans le métro, parce que les enfants dans le métro n'ont pas encore, ne sont pas encore assez snobs pour considérer qu'un musicien dans le métro est moins prestigieux qu'un homme qui se produit au Metropolitan. Donc les enfants ne sont pas encore assez snobs pour le penser. Donc de ce point de vue, l'enfance date de l'enfance. Mais sinon, l'enfance, la candeur véritable, elle est au bout du chemin. Le goût s'éduque. Un œnologue travaille. Un œnologue, il travaille. Il travaille à quoi ? Il travaille à enlever de son palais tout ce qui le sépare de la saveur qu'il goûte. Donc, il travaille à conquérir une candeur d'emblée perdue, en un sens. De la même manière qu'en philosophie, il faut en passer par la médiation de l'intelligence pour en revenir à la candeur. Donc, bien sûr que l'enfance, ici, c'est une métaphore. L'enfance, c'est ce que Bergson appelle la façon virginale de voir, d'entendre et de penser. Et Hume renvoie à cette disposition du caractère, à cette aptitude en chacun, pour désigner la possibilité que tous les goûts ne se valent pas. Et c'est ça qui est formidable, c'est que par-delà la diversité des goûts et le fait que cette diversité des goûts soit renforcée par le fait qu'un sentiment ne renvoie qu'à lui-même, par-delà ces deux obstacles à toute forme d'universalité, il y a la possibilité d'un goût plus juste que les autres qui nous viendrait d'un palais plus délié, ce qu'il appelle la délicatesse.
Avant d'en venir à la délicatesse, Raphaël, je voulais juste, vraiment la question sur du temps que met quand même en évidence le texte de Hume qu'on a entendu, c'est quand même quelque chose d'important de savoir si le temps, parce que ça a l'air d'être un juge des plus délicats à en croire Hume. Lorsque le temps fait son œuvre, c'est-à-dire que les auteurs oubliés sont les mauvais auteurs ou artistes et que ceux dont on se souvient encore sont les bons.
Oui. C'est vrai.
Et c'est vrai ?
C'est un critère qu'il se donne. Au fond, la question que se pose Hume, c'est comment se fait-il que personne ne se souvienne de machin, d'ailleurs on a oublié son nom, mais que tout le monde se souvienne de Homère ? Comment se fait-il ? Sinon qu'il y a bien là quelque chose qui résiste à la disparité des goûts, à la diversité des goûts, à la singularité des sentiments, au fait que chaque homme soit différent et que ses opinions soient différentes. Il y a bien là quelque chose qui résiste. Et la question, c'est qu'est-ce qui résiste là ? Quel est ce qui résiste là ? Comment appeler cela ? C'est le génie. Il l'appelle de cette façon. Mais il y a là quelque chose qui résiste et il est bien obligé de le constater. Revenons-en à l'extrait d'Amadeus. Le type n'a jamais entendu de musique, mais ça, il connaît. Ça, il connaît. Comment ça se fait que ça, il connaisse ? Y a-t-il un autre critère que l'émerveillement candide d'un homme qui n'est pas musicologue ni musicien pour rien au monde et qui pourtant reconnaît ça, alors que les œuvres de Salieri lui passent complètement au-dessus de la tête, justement, au-dessus de la tête, alors que les œuvres de Mozart lui rentrent dans la tête. Alors, c'est intéressant d'ailleurs parce que Hume lui-même, pour l'anecdote, Paola, considérait que William Shakespeare n'arrivait pas au talon d'un tragédien qui s'appelait John Home, qu'il aimait peut-être parce que son nom ressemblait au sien. C'est un mystère, c'est-à-dire que c'est le même homme, évidemment, qui pense la pérennité de l'œuvre d'art et le fait qu'une œuvre d'art dépasse la disparité des goûts. C'est le même sceptique qui dépasse son scepticisme au profit de ce qu'il faut bien appeler une forme d'universel, mais un universel palpable, candide, incarné. C'est le même homme qui considère que, évidemment, John Home est un meilleur tragédien que Shakespeare. Mais ce qui compte ici dans cette histoire, c'est que, au fond, de la même manière que nous savons ce qui est beau, mais nous ne savons pas ce qu'est le beau, et qu'au fond, quand nous éprouvons le sentiment de la beauté, nous ne déduisons pas ce que nous éprouvons d'une certaine idée du beau ou d'une certaine théorie du beau. De la même manière, ça n'est pas parce qu'une tragédie classique applique la règle des trois unités qu'elle est belle à coup sûr. En d'autres termes, les œuvres d'art portent une règle en elles, mais cette règle demande à être transgressée. Cette règle n'est écrite nulle part. Enfin, c'est la jurisprudence, en fait. Elle porte une règle en elle, mais cette règle n'est écrite nulle part au préalable et demande ensuite à être transgressée. C'est la raison pour laquelle, à l'ère des trois unités de temps, de lieu et d'action, le Cid est la plus belle pièce.
Percé jusque au fond du cœur, d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle, misérable vengeur d'une juste querelle et malheureux objet d'une injuste rigueur, je demeure immobile et mon âme abattue cède au coup qui me tue. si près de voir mon feu récompensé. Ô Dieu, l'étrange peine! En cet affront, mon père est l'offensé, et l'offenseur, le père de Chimène. Que je sens de rudes combats. Contre mon propre honneur, mon amour s'intéresse. Il faut venger un père et perdre une maîtresse. L'un m'anime le cœur, l'autre retient mon bras. Réduit au triste choix ou de trahir ma flamme, ou de vivre en infâme. Des deux côtés, mon mal est infini.
Paola.
Oui, cette pièce que tout le monde, cette tragicomédie que tout le monde s'accorde à trouver très belle aujourd'hui, avait tout pour scandaliser à l'époque, puisque à l'époque, de, comme vous l'avez dit, des trois unités, c'est une pièce qui ne les respecte pas, et en plus, qui insère au milieu des stances qui ne sont pas en alexandrin, mais en octosyllabe.
Entre autres.
Donc oui, comme vous disiez, il transgresse les règles, mais là encore...
Ça n'est ni le respect des règles, ni la transgression des règles qui fait la beauté du Cid, au fond. C'est ça qui compte. C'est que c'est la beauté du Cid qui fait la beauté du Cid. Et c'est la beauté du Cid qui fait son universalité. Quand Bouvard et Pécuchet prennent un traité de théorie tragique pour écrire une tragédie, si vous voulez, ils font fausse route. C'est tout le problème de la bêtise chez Flaubert, c'est-à-dire que la bêtise, c'est l'intelligence. La bêtise, c'est la culture. C'est une culture ivre d'elle-même qui croit qu'en étant cultivée, elle ne sera plus jamais bête. C'est tout le problème de la bêtise est ici. C'est-à-dire que il n'y a aucune théorie qui nous dispense de l'expérience, en définitive. Mais l'expérience, c'est pas parce que aucune théorie ne surmonte l'expérience ou le sentiment du beau. De la même manière, si vous voulez, qu'une bonne copie ou une bonne dissertation ne fait pas un bon livre. Voyez, il n'y a aucune théorie qui dispense de l'expérience ou de l'émotion singulière. Mais il existe une émotion qui légitimement dépasse celui qui l'éprouve. C'est ça le truc. C'est ça qui est bizarre. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu penser de Hume qu'il était le réveil matin de Kant. Puisqu'il y a cette fameuse phrase de Kant qui dit que Hume l'a sorti de son sommeil dogmatique. Et vous avez toute une tradition de lecture de Hume, notamment Luc Ferry dans Homo Aestheticus. C'est un très bon livre. Mais je crois que sur Hume, il est un peu court, si vous voulez. Il ne va pas assez loin. Hume, dit Ferry dans son livre, est à l'origine du projet kantien, c'est-à-dire du projet d'une universalité du goût qui ne sacrifie pas la subjectivité de l'individu. Ça, c'est Kant. Et beau, ce qui plaît universellement, sans concept. On reste dans le registre de l'émotion, du sentiment, et dans le même temps, on accède à l'universel. Hume est à l'origine de cette ambition kantienne. C'est vrai. Et l'enjeu politique et esthétique est réel, comme en s'entendent par-delà nos désaccords. On en parlait tout à l'heure. Jusqu'où on peut être tolérant, par exemple. Si on applique, par exemple, à l'opinion, à l'idée d'opinion, le paradoxe humien, on se dit que toutes les opinions sont acceptables, sauf celles qui ne le sont pas. Or, quelle opinion n'est pas acceptable ? Bah, celle qui n'accepte pas les autres, par exemple. Il y a des limites à la tolérance, si vous voulez. Il y a de l'indiscutable, il y a de l'intolérable. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a du bien et du mal auquel il faudrait se rendre fidèle, en un sens. Non, il y a de l'intolérable sans qu'il y ait pour cela des valeurs absolues qui nous permettent de le dire. Alors, le problème, évidemment, c'est que si on déclare intolérable l'opinion qui ne tolère pas les autres... Cette opinion n'est-elle pas elle-même intolérable, si vous voulez? Comment ne pas tolérer l'opinion qui ne tolère pas sans tomber soi-même sous le coup de l'accusation qu'on porte? Ça donne ces gens qui sont tellement ouverts d'esprit qu'ils n'acceptent personne dans leur cercle qui soit moins ouvert d'esprit qu'eux. C'est-à-dire que les plus intolérants sont parfois les plus hauts défenseurs de la tolérance. Laissons ça. Ce qui compte ici, c'est de comprendre que l'ambition kantienne d'établir les conditions d'un dialogue entre les individus et de constater qu'il y a de l'universellement beau, de considérer que les opinions ne sont pas toutes acceptables. Kant ne se penche pas tant sur ce qu'est la beauté et sur les moyens de la saisir que sur le constat de son universalité. Alors que Hume, lui, dépasse ça au fond, il va plus loin que Kant avant lui. C'est-à-dire que sa question n'est pas celle de l'universel. Il rejoint l'idée d'universel. Mais le chemin qu'il emprunte n'est pas le chemin de Kant. C'est pas un chemin juridique. Le chemin qu'il emprunte, c'est celui d'une connaissance absolue, d'une connaissance véritable des choses. Hume dépasse Kant dans la mesure où il pense une connaissance de la beauté dans sa disparité, dans son essence, telle qu'elle nous est fournie par les sens.
C'est pas exactement la même chose, si vous voulez. Quand Luc Ferry, commentateur de Kant, excellent pédagogue sur Kant, écrit que l'intérêt des essais esthétiques de Hume réside dans la tension qui les anime entre une position empiriste et la volonté de parvenir à l'idée de normes universelles. Au fond, que c'est de dire à la fois à chacun ses goûts tout en disant d'un jugement qu'il est préférable à un autre. Ferry dit en somme que Hume demeure trop sceptique pour surmonter une telle contradiction et qu'il faudra, pour en venir à bout, l'invention kantienne de la beauté universelle et non conceptuelle. Bon. C'est pas faux, hein, tout ça, c'est très exact, etc. Mais c'est la faiblesse de l'histoire des idées, je crois, d'une histoire linéaire des idées, parce que c'est une lecture univoque de la pensée de Hume. Elle ne restitue pas l'expérience singulière, charnelle, que chacun fait de la beauté et du plaisir qui l'accompagne. Ce que Hume donne à voir dans ses essais esthétiques, c'est pas seulement une contradiction redoutable, hein, entre le scepticisme et l'universel. C'est aussi la figure paradoxale, poétique, inouïe, de l'homme de goût, dont le jugement est d'autant plus sûr qu'il le prononce en toute humilité. D'un être si délicat que ses sens sont déliés et aiguisés et qu'il le met en rapport immédiat avec la chose même. Au fond, c'est de cette manière-là que Hume se défait des paradoxes du relativisme. Et je le crois sur ce point plus subtil que Kant.
Ces émotions subtiles de l'esprit sont d'une nature très tendre et très délicate. Et elle requiert le concours de nombreuses circonstances favorables pour jouer avec facilité et exactitude selon leurs principes généraux et établis. Le moindre obstacle extérieur, le moindre désordre intérieur, trouble le mouvement de ces petits ressorts et bloque les opérations de toute la machine. Quand nous voulons faire une expérience de cette nature et éprouver la force d'une beauté ou d'une laideur, nous devons choisir avec soin le moment et le lieu appropriés et placer l'imagination dans la situation et la disposition qui conviennent. Une parfaite sérénité d'esprit, un recueillement de la pensée, une attention adaptée à l'objet, si l'une de ces circonstances vient à manquer, notre expérience sera faussée et nous serons incapables de juger de la beauté catholique et universelle.
Paola, on entend ici quelques mesures de Tristan. Et j'ai eu le sentiment, je peux me tromper, que vous avez fait un peu la grimace quand vous l'avez entendu. Dites-moi pourquoi.
Ah non, c'est à cause de mes préjugés, vous savez.
C'est-à-dire ?
Avant d'écouter Wagner, j'ai trop entendu Woody Allen dire que quand il écoute Wagner, ça lui donne envie d'envahir la Pologne.
Oui, en gros, c'est l'antisémitisme de Wagner qui vous gêne.
Non, c'est...
Il y a de quoi ?
Non, ça serait trop facile comme interprétation. Non, c'est pas ça, c'est... Peut-être que je suis juste moins sensible à Wagner, je préfère Chopin, voilà.
Alors, la question ici, vous voyez, parce qu'on est au cœur du problème que pose le texte, justement. La question ici, c'est dans quelle mesure est-ce que votre jugement sur Wagner, votre opinion, votre sentiment sur Wagner est accru ou avéré ou rendu pertinent par l'idée que vous vous en faites, hein, que ce soit l'antisémitisme de Wagner, que ce soit cette espèce d'ambition d'œuvre d'art totale qui semble régner sur chacune de ces mesures, ou bien si au contraire, ces préjugés qui sont les vôtres et qui sont ô combien légitimes, qui sont par ailleurs des informations, enfin je veux dire, l'antisémitisme de Wagner n'est pas un scoop, si ces préjugés ne faussent pas votre perception même de l'œuvre d'art. Au fond, l'ambition de Hume, c'est de penser une émotion séparément des informations dont on dispose. C'est un grand paradoxe. Chez Hume, l'éducation, et en cela c'est une éducation philosophique proprement, ne fonctionne pas par accumulation de connaissances. Ou plus exactement, si elle accumule les connaissances, c'est uniquement en vue d'un jugement épuré. C'est-à-dire qu'elle n'accumule les connaissances que pour pouvoir les oublier ensuite. Au fond, les connaissances sont des éducateurs, sont cisèlent le jugement, mais n'interfèrent pas. Il y a vraiment deux rapports à la connaissance. Pour Hume, l'éducation, c'est l'oubli de ce qu'on sait, en un sens. Alors que, pour toute une série de disciplines, dont la beauté, si vous voulez, n'est pas si évidente qu'elle apparaisse tout de suite à la façon de quelques notes de Mozart. Il y a toute une série de disciplines ou d'aspects de certaines disciplines, notamment l'art contemporain, ce qu'on a appelé, dans un terme indûment générique d'ailleurs, l'art contemporain, qui demande une connaissance préalable. Hume, en un sens, réclame une ignorance préalable, puisque la connaissance préalable, c'est ici, à ses yeux, à son palais, à son goût, autant de préjugés. Vous voyez, par exemple, c'est ne pas aimer Céline parce qu'il est antisémite, en un sens, c'est à peu près... Enfin, les œuvres de Céline parce qu'il est antisémite. Détester Céline parce qu'il est antisémite, c'est bien naturel. Mais ne pas aimer Le Voyage au bout de la nuit parce que Céline a écrit des textes antisémites, extraordinairement antisémites ensuite, c'est aussi absurde que de ne pas aimer Mozart parce qu'il était scatophile, si vous voulez. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce qu'on fait reposer sur notre impression le filtre, mais le filtre opacifiant de notre propre connaissance, dont on ne voit pas à cet instant qu'elle est un préjugé et qu'elle nous sépare de l'œuvre. Et on en revient à ce qu'on disait de Montaigne, matière ou manière. Privilégier la matière sur la manière, privilégier le contenu sur la structure, c'est s'attarder sur la teneur, par exemple, morale d'une œuvre. C'est le péché auquel se livre Platon dans La République. Platon subordonne la présence des poètes dans la cité au contenu même de leurs œuvres. Il faut que les poètes jouent le rôle de l'éducation, soient des bons éducateurs pour rester dans la cité. Ils ne doivent pas enseigner la licence, sinon on les jette avec du goudron. Mais écoutez, que voulez-vous ? La qualité d'une œuvre n'est pas une affaire de morale. Et de tous les préjugés, c'est-à-dire dont la métaphore, encore une fois, chez Hume, c'est celle d'un palais abîmé, on le verra. Si vous voulez, Paola, on reprend cette conversation sur Hume la semaine prochaine, parce qu'on n'en a pas dit assez, là. Et notamment la question de la délicatesse, on ne l'a même pas abordée. On n'a pas cessé de dire qu'on allait en parler, on n'en a pas parlé. Je vous promets, chers auditeurs, qu'on en parlera la semaine prochaine, c'est trop important. Ce qu'il dit de la délicatesse et dont la métaphore est celle d'un œnologue, d'un palais averti, ce qu'il dit de la délicatesse, c'est au fond que aucune connaissance n'est de nature à étayer notre goût véritable. En revanche, ce qui provoque de la joie à l'intérieur d'une disposition candide est, en un sens, avéré et mérite le titre de beauté universelle.
Allez, merci Paola, merci à tous. François Connac à la réalisation, Michel Mestre à la technique, Georges Kless, Georges notre lecteur, Alice Ramon notre attachée de production. C'est la fin du Gai Savoir pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, donc, pour continuer cette promenade dans les essais esthétiques de David Hume, en particulier l'essai sur la norme du goût, dont certaines finesses méritent encore d'être examinées. Donc, ça n'était pas prévu, mais c'est comme ça. Bis repetita, la semaine prochaine, on revient sur Hume, et peut-être aussi d'ailleurs, si on a le temps, le détail de son hilarante querelle, ou de sa querelle hilarante avec Jean-Jacques Rousseau. Vous verrez, vous entendrez. Dans l'intervalle, vous avez l'obligation, sinon morale, du moins esthétique, d'écouter les nouveaux chemins de la connaissance de cette semaine. D'abord pour son sujet, magnifique, les voyages immobiles. Et ensuite parce que c'est un privilège d'entendre Adèle Van Rett parler d'Oblomov. Et c'est entre autres ce qui vous attend cette semaine, tous les jours, de 10h à 11h, pour une heure quotidienne de philosophie inventive. On se retrouve dimanche prochain donc, et en attendant sur internet à la page du Gai Savoir ou sur Facebook, où vous attendent téléchargements et bibliographies, ainsi que l'écoute en ligne de l'émission 17h sur France Culture. Dans un instant du côté de chez soi, salut Ali.